Marine Le Pen sur Radio Rythme Bleu ce matin, elle a annoncé qu'elle allait écrire au président de la République. Elle veut participer personnellement à la réunion que le chef de l'État veut organiser à Paris avec les parties prenantes de la Nouvelle-Calédonie. Le déménagement des activités d'Hercal de Magenta à Tontouta. Le projet a été évoqué en commission plénière du Congrès hier. Un groupe de pilotage va se mettre en place dans quelques semaines. Alerte à la dengue dans plusieurs pays de la région. Les autorités sanitaires lancent un appel à la vigilance devant la multiplication des cas. En métropole, un rapport parlementaire pointe la violence des jeunes qui utilisent de plus en plus d'armes blanches. Dans ce contexte, le jeune meurtrier de Matisse, tué à 16 ans de plusieurs coups de couteau, a été condamné à 8 ans de prison. Et puis du tennis dans la page sport. Plusieurs Français engagés la nuit prochaine pour nous pour le deuxième tour de Roland-Garros. Le numéro 1 français Arthur Fils affrontera l'Espagnol Munar, 57e à l'ATP. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Pour Marine Le Pen, il faut sortir de la cage de la réforme institutionnelle dans laquelle est enfermée la Nouvelle-Calédonie. La chef de file des députés Rassemblement National était ce matin dans les studios de Radio Rythme Bleu au deuxième jour de sa visite sur le territoire et elle a détaillé, Elisabeth Noir, le projet de son parti.
Mais Marine Le Pen a aussi annoncé qu'elle souhaitait participer personnellement aux discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie au lendemain du communiqué de l'Élysée qui indique que le président de la République invitera les parties prenantes à venir travailler à Paris à partir de la mi-juin. Marine Le Pen nous a annoncé qu'elle allait écrire à Emmanuel Macron.
J'ai vu qu'il reprend la main, il retire donc le dossier à M. Valls, il reprend la main, moi je vais lui écrire dès mon retour à Paris pour lui demander de participer autour de table sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Parce que je considère que le Rassemblement National est d'abord le premier parti de l'Assemblée nationale, deuxièmement il bénéficie d'un capital de confiance, je rappelle que j'ai fait 40% aux élections présidentielles en Nouvelle-Calédonie, que je crois que nous avons une vision, nous avons travaillé, nous avons un projet, nous avons en même temps travaillé sur l'aspect institutionnel et travailler sur le développement économique et nous avons très certainement des choses à apporter dans ce débat qui est essentiel pour l'avenir de la Calédonie dans la France.
C'est vous-même qui voudriez participer à ces discussions sur l'avenir ou...
Oui, j'irai personnellement comme j'ai été personnellement d'ailleurs la seule présidente de groupe à être présente à l'ensemble des réunions organisées autour de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale.
Marine Le Pen veut participer à ces discussions organisées par le président de la République sur les sujets économiques, politiques et institutionnels mais elle se dit particulièrement préoccupée par la situation économique et budgétaire de la Nouvelle-Calédonie. La priorité pour elle, c'est de réfléchir aux moyens de redresser l'économie et pour cela, elle propose un moratoire parce que, dit-elle, il n'y aura pas d'investissement s'il n'y a pas de stabilité.
J'ai presque envie de dire qu'il faudrait presque un moratoire dans le conflit qui existe pour s'attacher vraiment à résoudre la crise économique et budgétaire. Parce que la Nouvelle-Calédonie est au bord du gouffre sur le plan budgétaire. Et les entreprises aujourd'hui, pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, elles ont évidemment besoin d'avoir cette visibilité. Et quand tout le monde se sera mis à travailler ensemble pour quelque chose de positif, eh bien peut-être arrivera-t-on à trouver le chemin institutionnel que tout le monde cherche.
Très critique sur ce qui a été fait ces dernières années, Marine Le Pen affirme que le rééquilibrage a été un échec et elle en fait porter la responsabilité à l'État et à la classe politique calédonienne. La chef de file des députés et Rassemblement National réclame donc une pause institutionnelle.
Moi, je crois qu'il faut faire un bilan. Est-ce que l'ensemble des compétences qui ont été transmises sont véritablement utilisées comme elles le devraient ? Est-ce qu'il n'y a pas des manques, des carences peut-être quelque part ? Est-ce qu'on ne doit pas accélérer certaines, peut-être ralentir certaines, réfléchir à nouveau sur quelles compétences pour quelle collectivité, quitte d'ailleurs peut-être à en restituer une ou deux à l'État quand on voit qu'on n'est pas encore en capacité de les utiliser à plein régime, on peut réfléchir à beaucoup de choses, beaucoup de souplesse dans la mise en œuvre pour peu que tout le monde soit d'accord. Et puis, parce que c'est inscrit dans la Constitution, le droit à l'autodétermination, qui peut d'ailleurs prendre des formes qui sont très différentes, pourrait être envisagé, j'ai suggéré moi, 40 ans.
Un référendum d'autodétermination dans 40 ans, parce que la Nouvelle-Calédonie a besoin de stabilité. Marine Le Pen estime qu'il fallait être naïf pour croire que les trois référendums allaient régler la situation. Elle estime que des erreurs majeures ont été commises, notamment avec la tentative de modification du corps électoral.
Le dégel du corps électoral aurait dû faire partie d'un accord global. Et en le faisant voter, on se privait en réalité de pouvoir l'intégrer comme un des leviers d'un accord global. C'était une énorme maladresse. C'est, je crois, la conséquence de la méconnaissance par un gouvernement qui a peut-être été poussé par certains aussi, hein, à ce que je considère être une faute. Mais quand on connaît l'idéal que représente pour les indépendantistes l'indépendance. C'est comme ça, c'est un fait. Moi, je juge pas, je dis pas c'est bien, c'est pas bien. C'est comme ça. Et c'est comme ça depuis longtemps entre nous. Bon, si quelqu'un a pensé qu'au bout de 3 référendums, ça réglerait le problème, eh bien, c'est, je pense, une absence de lucidité.
Pour Marine Le Pen, il faut que les élections provinciales aient lieu et qu'elles se déroulent vite. Elle estime raisonnable un corps électoral glissant de 10 ans et elle souhaite une issue à la passe dans laquelle se trouve la Nouvelle-Calédonie.
Il faut quand même trouver ce chemin. Parce que moi, j'espère être présidente de la République. La Nouvelle-Calédonie, je la veux dans la France. Ça veut dire que les Calédoniens sont tous français à mes yeux. Et que donc je m'attache à ce que la paix et l'unité reviennent en Nouvelle-Calédonie. Et l'avenir de l'ensemble des Calédoniens m'importe. C'est ça la position qui est la mienne. Alors c'est sûr, on peut toujours être extrêmement dur dans les postures, mais regardez ce que ça donne d'être dur dans les postures. On se retrouve avec une tension extrêmement forte et en réalité un chemin vraiment très étroit pour réussir à trouver les moyens de réfléchir à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.
Une interview de Marine Le Pen qui était notre invitée du matin à retrouver en podcast audio et vidéo sur le site internet d'RRB.
Et après ce passage dans nos studios ce matin, Marine Le Pen s'est rendue à Doniambo. La visite de la SLN a débuté par un temps d'échange avec la direction et le personnel de la SLN. Puis Marine Le Pen, accompagnée par les membres de sa délégation, a pu faire le tour de l'usine pendant plus d'une heure. Elle martèle qu'elle croit beaucoup en l'avenir de la filière nickel, l'avenir qui pourrait passer, selon la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, par la construction d'une mini-centrale nucléaire.
Le tout, c'est qu'il faut que l'État ait une vision en fait, industrielle. Et la vision industrielle que doit porter l'État, au-delà du fait que c'est privé, ce n'est pas le sujet, c'est l'énergie. C'est-à-dire c'est l'apport d'une énergie qui soit en même temps décarbonée, mais surtout à très bas coût. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence avec l'Indonésie est intenable avec le prix de l'énergie actuelle, qui nécessite évidemment des subventions massives. Les subventions, elles sortent de vos poches, de ma poche, et tout ça, c'est pas très performant. Quoi. Voilà. Donc, il y a une vraie réflexion à mener. Le plus cohérent, ce serait un SMR, des mini-centrales nucléaires, hein, les SMR. Ce sont des coûts, je vais pas dire que c'est raisonnable, c'est 1 milliard, mais en réalité, quand on sait ce que ça peut apporter, que ça couvre les besoins des 3 usines, plus éventuellement que ça laisse de la marge pour le reste de la Nouvelle-Calédonie, en termes d'investissement d'avenir, ça reste quelque chose de raisonnable.
Charles Dubois, directeur général par intérim de la SLN, confirme les propos de Marine Le Pen. L'ensemble de la profession travaille main dans la main pour trouver des solutions pérennes. Honoré par cette visite, il a pu montrer à la présidente du Rassemblement national à l'Assemblée nationale et sa délégation le travail et le savoir-faire local.
Aujourd'hui, ça s'est très bien passé, effectivement. On a pu faire le tour de l'usine, montrer notre process, montrer aussi la compétence de notre personnel. C'est quelque chose, on est très fiers de présenter le savoir-faire et la compétence multigénérationnelle de tous nos salariés qui œuvrent pour produire un nickel de qualité. On a pu parler de nos enjeux, des solutions aussi qui existent pour la filière nickel, en particulier la SLN. Donc les enjeux et les solutions, elles sont documentées. C'est avant tout un accès à l'énergie compétitive en commençant par une centrale. C'est vraiment un besoin que l'ensemble de la filière nickel, la Nouvelle-Calédonie, a besoin. Construire une centrale, c'est vraiment le premier point qui est nécessaire pour avoir une électricité compétitive et pouvoir continuer à laisser les mineurs travailler, accéder à leur gisement pour avoir un minerai de qualité pour nos fours.
Mais avant cela, la SLN cherche une solution de production électrique à court terme. Elle doit obtenir une nouvelle autorisation pour l'année qui vient pour exploiter la CAT, la centrale à Costé temporaire. Après la SLN, c'est le Sénat coutumier qui a accueilli Marine Le Pen. L'échange a débuté par une coutume avant de se poursuivre dans la grande case. Marine Le Pen a une nouvelle fois présenté sa méthode, se concentrer davantage sur le développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie plutôt que de trouver une réforme institutionnelle. Une approche jugée intéressante par le président du Sénat coutumier, Éloi Goé.
C'est quelque chose qui nous intéresse parce que c'est en dehors de la question purement institutionnelle et politique et s'attarder plus sur les préoccupations en interne, quoi, des besoins des populations, avec bien sûr des modèles sur la construction, sur de nouvelles bases, quoi. Tout le monde s'accorde à dire que l'accord de Nouméa, c'est lui qui aurait dû nous amener sur beaucoup d'avancées, beaucoup d'évolutions, quoi. Ça n'a pas été le cas sur plusieurs niveaux. Ça a été le cas sur des questions des infrastructures, etc., mais moins sur le plan humain, quoi, et en particulier qui concerne les populations autochtones kanak. Donc ça reste que des paroles, quoi. On attend de voir.
Et après le Sénat coutumier, Marine Le Pen s'est rendue à Dikos auprès des victimes des entreprises victimes des émeutes de mai 2024. Demain, elle se rendra au Mont d'Or par navette et elle poursuivra ses entretiens politiques avant de tenir une réunion publique à 18h au Château Royal. Un discours très volontariste pour François-Xavier Bellamy. Le député européen, qui est aussi le numéro 2 de LR, tenait une réunion publique hier soir à l'hippodrome de Nouméa, à l'invitation du Rassemblement et des Loyalistes. Il a appelé notamment au respect des 3 référendums et au dégel du corps électoral, Elisabeth.
Il ne faut rien lâcher, a martelé François-Xavier Bellamy, qui a fixé un cadre et des lignes rouges pour les discussions sur l'avenir institutionnel. Le vice-président des Républicains, qui a d'abord évoqué la situation et le contexte calédonien, en revenant sur les conséquences du 13 mai et des violences insurrectionnelles.
Le 13 mai, ça n'était pas l'année dernière. Le 13 mai, c'est aujourd'hui. Et le 13 mai, c'est tous les jours. Et c'est ce que je touche du doigt chaque heure depuis que je suis arrivé ici. Le 13 mai, c'est maintenant qu'il continue de se produire. Cette immense destruction, cet appauvrissement général, tous les voyants économiques passés au rouge, les enfants privés d'école, les salariés privés de bus, les malades privés de médecins, les entrepreneurs qui ont vu partir en fumée le travail de toute leur vie. Ces immenses investissements qui avaient été portés par des élus courageux, par des pionniers depuis des décennies, par les travailleurs de toute la société calédonienne, de toutes les origines et de toutes les couleurs, tout cela a été balayé, tout cela est toujours aujourd'hui menacé. Et comme un grand poumon qui s'arrête d'un seul coup et qui met toute l'économie calédonienne en difficulté, je pense à ces usines arrêtées, je pense à ces fours refroidis.
Et depuis son arrivée sur le territoire, le député européen a été marqué par les destructions, mais aussi par la peur qu'il a ressentie chez les Calédoniens.
Ce qui me marque le plus, c'est la peur. La peur dont vous témoignez, la peur dont vous parlez, la peur que vous partagez, la peur qui se lit partout, la peur de voir l'État manquer à ses responsabilités, la peur de voir l'irresponsabilité mettre en danger ce territoire, la peur de l'autre aussi, bien sûr, et de ce 13 mai qui pourrait revenir demain, le sentiment d'abandon. Quel paradoxe incroyable. 3 référendums qui devaient apporter, après 30 ans comme en suspension, qui devaient apporter un horizon enfin clair à la Nouvelle-Calédonie. Et après ces 30 ans d'efforts qui avaient été consentis, ces 30 ans de patience, ces 30 ans de respect du temps du processus électoral, ces 30 ans de corps électoral gelé, d'incertitude acceptée, au moment de confirmer le cap que les citoyens avaient choisi, tout est à nouveau à terre. Comment pouvons-nous l'accepter ?
Le vice-président des Républicains a aussi élargi son propos pour déclarer aux Calédoniens « Ce que vous vivez ici, c'est ce que vit toute la France ». Le renoncement des élites, l'effacement de l'autorité et la victoire de la violence sur la démocratie. Mais pour François-Xavier Bellamy, il ne faut rien lâcher. Le résultat des 3 référendums doit être respecté et il affirme que le respect de la démocratie sera le premier et le dernier mot de toute négociation possible. Dans le même esprit, il affirme qu'il faut organiser dès maintenant le dégel du corps électoral. Le député européen avait aussi un message aux Calédoniens de la part du président des Républicains, Bruno Retailleau, qui est également, vous le savez, ministre de l'Intérieur.
Tu leur diras que si on me demandait demain de souscrire à un accord qui fragiliserait la Nouvelle-Calédonie française, nous quitterions immédiatement le gouvernement de la France. Et tu leur diras que si on me demandait de fragiliser l'engagement des forces de l'ordre qui aujourd'hui garantissent le maintien de la sécurité en Nouvelle-Calédonie, nous appliquerions exactement la même réponse. Notre ministre de l'Intérieur, et je voulais partager ce message avec vous pour vous dire que notre ministre de l'Intérieur est aujourd'hui engagé tous les jours pour garantir la sécurité en Nouvelle-Calédonie grâce aux policiers et aux gendarmes qui sont déployés ici. Et nous continuerons à soutenir cet engagement parce que la Nouvelle-Calédonie en a besoin dans la durée. C'est une nécessité absolue.
François-Xavier Bellamy a aussi parlé de l'industrie du nickel stratégique pour la France et pour l'Europe. Et il a plaidé pour sa reconnaissance au sein des matières critiques, des matières premières critiques, afin de contrer la concurrence de la Chine et de l'Indonésie. Il a enfin évoqué les ingérences extérieures, notamment celle de l'Azerbaïdjan, qu'il dit avoir combattu pied à pied et jour après jour au Parlement européen.
Oui, François-Xavier Bellamy sera lui aussi dans les studios de Radio Rythme Bleu. Demain, il sera en effet votre invité, Elisabeth, dans le magazine Transparence. Avant cela, il commencera sa journée par une rencontre avec le président de la CCI, David Guyen, et la présidente du MEDEF, Mim Sidélé. L'après-midi, il se rendra au Mont d'Or où il rencontrera le maire Elisabeth Rivière et son conseil municipal avant de tenir une réunion publique à la salle des communautés au Mont d'Or Sud. La question du déménagement des activités d'Aircal de Magenta vers Tontouta était au centre d'une réunion de la commission plénière du Congrès hier après-midi. Les élus ont pris connaissance de la situation d'Aircal, notamment de sa situation budgétaire qui impose de réfléchir à son déménagement vers Tontouta, a rappelé le président du gouvernement Alcide Ponga.
On va s'organiser pour faire à ce que les choses se fassent de façon très, très, très pédagogique et surtout de répondre aux questions qui sont posées par les usagers. Comment est-ce que je suis transporté de Tontouta à Nouméa? comment est-ce que je fais ci, comment est-ce que je fais ça, le coût du billet, si ça augmente, comment est-ce que c'est pris en charge, c'est aidé, etc., etc. Donc tout cela, ce sont des questions qui provoquent une certaine tension chez les usagers des îles, et je le comprends parfaitement, mais il va falloir qu'on le fasse, parce que dans le plan de sauvetage du Hercal, ce déménagement en fait partie. Si on ne le fait pas, je ne sais pas comment est-ce qu'on continue derrière cette activité, parce que la Calédonie devra chaque année mettre entre 1 milliard et 1 milliard 5 sur la table pour sauver Hercal, et ça, sincèrement, on ne pourra pas le faire.
Et pour avancer sur le projet de déménagement des activités d'Hercal de Magenta vers Tontouta, un groupe de pilotage va être mis en place avec toutes les parties prenantes, car il reste de nombreuses questions à étudier et il y aura des choix à faire.
Il y a deux schémas. Est-ce qu'on passe par un modèle transitoire qui nous ferait démarrer les choses en 2025, ou est-ce qu'on attend le modèle définitif qui nous ferait démarrer plutôt en 2026? Donc tout ça, ce sont des questions auxquelles je n'ai pas encore la réponse là-dessus. Je préfère que le groupe de pilotage de projet soit mis en place, qu'on puisse mettre tout ça sur la table, poser les questions qu'il faut, y répondre. Un groupe de travail qui intègre l'ensemble des parties prenantes au sujet de déménagement, parce que c'est pas que Hercal, c'est le gouvernement, c'est les pompiers, c'est la direction de l'aviation civile, c'est la DANC, c'est Hercalin, c'est la CCI, etc., etc.
Le président du gouvernement, Alcide Ponga, interrogé par Kéline Daboakou, ce groupe de pilotage doit être mis en place dans les prochaines semaines. À propos de l'actualité aérienne, le vol Hercalin A330 entre toutes Tontouta et Sydney, prévu au décollage ce matin à 8h35, a été retardé en raison d'un aléa technique. Il semblerait qu'une erreur de programmation du personnel de sécurité nécessaire aux procédures d'enregistrement des passagers soit à l'origine de ce retard. L'avion a finalement décollé à 11h30. De la sueur et de la bonne humeur, les volontaires du RIMAPENSE se sont lancés le 19 mai dernier dans une marche de 740 km en relais de Prony jusqu'à Koumac. La marche des volontaires rend hommage au bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique engagé aux côtés des forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale, dont les survivants ont fait leur retour en Calédonie en 1945, il y a donc 80 ans. Au 11e jour de marche, les volontaires ont déjà parcouru plus de 120 km. Ils approchent de Bouloupari. L'équipe du colonel Loïc Belbeloc, commandant du régiment d'infanterie de marine du Pacifique en Calédonie, a entamé l'ascension du mont Humboldt cet après-midi.
C'est un trinôme en relais, c'est trois marcheurs du RIMAP de Plume. Et ils sont accompagnés au fur et à mesure de ceux qui veulent bien marcher avec nous. Donc il y a des anciens combattants, il y a le président de la CCI, le général défend qui a marché avec nous, des jeunes aussi qui ont marché avec nous. Et puis ce matin, aujourd'hui, on changeait d'air, coutumière. Et donc on avait une transmission du totem pour traverser l'air et voilà, continuer notre marche jusqu'à Koumac. Donc on n'a pas eu de blessés graves, on a des petits bobos, on a eu aussi de la pluie et les météos. La marche est quelque chose quand même de physique, c'est un bel exploit, hein, 740 km. Et pour l'instant tout se passe bien et ça entraîne un bon enthousiasme, mais voilà, il y a de la sueur et de la bonne humeur.
Et l'arrivée des volontaires est prévue à Koumac le 1er juillet prochain. Un rendez-vous sur Radio Rythme Bleu demain, fondée en 1965. La Société calédonienne d'ornithologie fête cette année ses 60 ans. Demain à 7h30, notre invité du matin sera David Ugolini, le président de la SCO. L'occasion de faire le point sur les différentes actualités de l'association, l'opération SOS Pétrel avec le récent sauvetage d'un puffin de Buller à Nouméa, ou encore la fin de l'Atlas de la biodiversité communale de Poum. En attendant, 18h04, la première pause de ce journal avant de voir dans un instant l'actualité en métropole.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La Suite Info Soir, Jean-François Baudin.
L'actualité judiciaire en métropole avec deux décisions qui font réagir. D'abord, celle prononcée à l'encontre de Joël Lesquarnec, ce chirurgien à la retraite qui comparaissait pour près de 300 viols et agressions sexuelles, la plupart sur des mineurs. Il a été condamné à 20 ans de prison, dont une peine de sûreté des deux tiers, mais pas de rétention de sécurité, qu'il aurait obligé à purger sa peine dans un établissement très strict, sans espoir de réduction de sa durée d'incarcération. L'autre décision de justice qui fait réagir, c'est celle prononcée à l'encontre du meurtrier du jeune Mathieu. Matisse. Il y a un an, à Châteauroux, Matisse avait été poignardé par un jeune Afghan de 16 ans en situation irrégulière. Le drame aurait eu lieu après une simple battle de rap. L'accusé purgera finalement une peine de 8 ans de prison. Jean-Baptiste Marty.
Une altération du discernement a été retenue. L'assassin de Matisse serait perturbé psychologiquement depuis son départ d'Afghanistan en pleine guerre à l'âge de 5 ans. Une décision de justice très commentée, incompréhensible même pour certains proches de la victime. Et pour cause, l'agresseur n'en était pas à son coup d'essai. Une semaine avant ce meurtre, le jeune Afghan avait menacé un autre adolescent en mettant une lame sur sa gorge dans un parc. En plus de cette peine, le mis en cause est condamné à 15 ans de suivi psychojudiciaire et une obligation de soins. Il pourrait écoper de 3 ans de prison supplémentaire s'il ne suit pas ses obligations. Une peine jugée peu sévère par le père de la victime qui n'attendait rien de ce procès, même s'il a salué les 15 ans de suivi. Un procès donc à huis clos, mais sous haute tension. La mère du suspect qui avait giflé Matisse au sol après l'agression a dû être exfiltrée. Elle qui doit être jugée prochainement pour violence volontaire sur une personne vulnérable.
Un verdict rendu alors qu'un rapport parlementaire remis au Premier ministre inquiète sur la violence des jeunes. Un vol avec arme sur 3 est commis par un jeune de 13 à 17 ans. Plus de la moitié des homicides au couteau, 57% exactement, sont commis par des jeunes mineurs. Deux jours après l'adoption de la proposition de loi sur l'aide à mourir à l'Assemblée nationale en première lecture, les oppositions restent mobilisées. Les soignants sont inquiets d'éventuelles dérives. Les aidants ont l'impression qu'on veut pousser leurs proches malades à en finir. Et les religieux affirment qu'il faut soutenir la vie plutôt que la mort. Écoutez à ce sujet Mgr Mathieu Rouget, l'évêque de Nanterre.
Une des choses que nous reprochons à la proposition de loi telle qu'elle a été votée en première lecture, c'est un processus législatif qui n'en est qu'à son commencement. Et donc le débat continue. Il ne faut pas imaginer que les choses sont déjà complètement faites. Une des choses que nous reprochons, c'est que cette proposition de loi n'assume pas ce qu'elle est, une proposition en faveur de l'euthanasie et du suicide assisté. Il y a depuis le début du processus une tentation d'euphémisation, de cacher ce que l'on veut faire derrière des mots qui l'adoucissent. Si il y a un projet qui est sur la table, eh bien il faut l'assumer pleinement tel qu'il est. Notre engagement au service de la vie, accompagné dignement jusqu'au bout, n'est pas un engagement conservateur ou dogmatique, c'est un engagement, on pourrait dire, progressiste.
Mgr Mathieu Rouget, l'évêque de Nanterre et porte-parole des évêques de France sur ces questions éthiques. Il y a longtemps que les Français n'avaient pas autant épargné. Le taux d'épargne a bondi à 18,8% du jamais vu depuis 1981. Dans le même temps, le taux du livret A va encore baisser et devrait passer sous la barre des 2% au mois d'août prochain. Cette tendance à surépargner, alors que les rapports financiers ne sont pas bons, est en fait une menace pour l'économie. Les explications de Barthélémy Philippe pour Europe 1.
Tous les ingrédients d'une reprise de la consommation sont réunis, les prix n'augmentent quasiment plus, le pouvoir d'achat remonte et les taux de rémunération des placements financiers baissent. Et pourtant, les ménages ont encore réduit leur consommation au premier trimestre. Un obstacle de plus pour le gouvernement qui doit réduire le déficit public. Philippe Crevel est directeur du Cercle de l'épargne.
L'État souhaiterait évidemment un peu plus de consommation. Un des principaux impôts, c'est la TVA. Si les consommations baissent, les rentrées de TVA sont plus faibles. Cela ne contribue pas à réduire l'ampleur du déficit public.
L'autre motif d'inquiétude que suscite cette surépargne, c'est son effet récessif. En France, le taux de croissance du produit intérieur brut dépend en grande partie de la consommation des ménages.
Dans les moteurs de la croissance, il y a la consommation qui représente à peu près 2/3. Après, il y a l'investissement. La consommation est en berne et l'investissement est en berne. Ça explique pourquoi on est flat au niveau de la croissance.
Sous l'impulsion de l'INSEE et de la Banque de France, le gouvernement vient d'ailleurs de réviser à la baisse sa prévision de croissance annuelle à 0,7% seulement.
Il est 18h09, la dernière pause de ce journal. On se retrouve pour l'actualité dans la région où les cas de dengue ont tendance à se multiplier ces derniers temps. On parlera aussi tennis. À tout de suite.
Gédimat, 51 rue Auer à Ducos, c'est le partenaire des pros et des particuliers. Peinture, lasure, revêtement de sol et mur, salle de bain, produits techniques, étanchéité, électroportatif et quincaillerie. Gédimat, 25 98 84 ou sur Facebook, Gédimat Nouméa.
C'est le moment de s'équiper chez Decathlon. Du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin, profitez de moins 20% de remise sur toutes les chaussures dans vos deux magasins, Alma et Apogoti. Running, rando, sportco, vite, c'est jusqu'au 1er juin seulement chez Decathlon. Voir conditions en magasin.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Jean-François Baudin.
Depuis le déploiement du programme Volbakia dans le Grand Nouméa, il n'y a plus d'épidémie de dengue en Nouvelle-Calédonie. Mais ce n'est pas le cas dans la région où les cas semblent exploser depuis plusieurs jours. Les autorités sanitaires de plusieurs pays ont même lancé un appel à la vigilance. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Des cas de dengue ont été signalés récemment au Tonga et au Samoa, où plusieurs personnes lui ont succombé. Le stade épidémique a même été atteint aux îles Cook, où des opérations de lutte contre le moustique vecteur de la maladie ont été lancées. C'est toutefois aux îles Fidji que la situation est la plus inquiétante. Près de 9000 cas de dengue y étaient enregistrés début mai, contre 5200 un mois plus tôt. 4 morts sont également à déplorer. Le ministère de la Santé a donc accru ses campagnes de pulvérisation anti-moustique. Il a également confirmé que 4 cas de méningococcie ont été signalés à travers l'archipel ces 3 dernières semaines. 2 enfants figureraient parmi ceux qui ont contracté la maladie et un 3e enfant lui aurait succombé. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Le sport avec du tennis et le numéro 1 français sera cette nuit pour nous sur les courts de Roland-Garros. Pour le 2e tour de la compétition, Arthur Fils, 14e joueur mondial, sera opposé à l'Espagnol Jaume Munar, 57e joueur mondial. Un adversaire a priori à la portée du français que nous présente le consultant tennis d'Europe, Cédric Pioline.
Un spécialiste de terre battue, espagnol, qui était plutôt un espoir il y a quelques années, mais qui n'a jamais vraiment réussi à confirmer, qui joue plutôt bien depuis le début de l'année, des bons résultats. On a l'impression qu'il a passé un petit cap. Évidemment, Arthur, sur le papier, favori, grand favori. Et on espère qu'il va faire le job. Je pense qu'il a vraiment tout ce qu'il faut dans son jeu pour, je l'espère pour lui, ne pas se compliquer la vie et faire un match trop long. Mais il faudra qu'il soit sérieux parce que les Espagnols, c'est toujours des bons clients sur terre battue.
Et le match entre Arthur Fils et Jaume Munar est prévu et programmé à 20h, heure de Nouméa, sur le court de Roland-Garros. Il ne sera pas le seul Français sur les courts. Richard Gasquet aura très forte affaire face au numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner. En cas de défaite, on ne reverra plus Richard Gasquet en compétition puisqu'il met un terme à sa carrière professionnelle à l'issue de ce tournoi. Match difficile aussi a priori pour Corentin Moutet face à Novak Djokovic. Pierre Hugerbert jouera contre le Brésilien Fonseca. Hugo Humbert affrontera le Britannique Fernley et Gaël Monfils un autre Britannique, Jack Draper. Côté féminin, les chances tricolores reposeront en grande partie sur les épaules de Léolia Jean-Jean qui affronte l'Australienne Kazatkinka. Il est 18h13, on passe à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Je vous vois sourire, Nicolas. Ça y est, j'ai remis les lettres dans le bon ordre, donc vous pouvez y aller pour la météo.
D'accord, Jean-François. Alors, cette nuit, les nuages seront nombreux avec encore quelques averses en soirée sur l'extrême sud et l'ouest, puis sur le sud des Loyautés ensuite. Ailleurs, le ciel sera peu à passagèrement nuageux. Le vent sera de sud à sud. Il soufflera de 5 à 10 nœuds, mais atteindra 10 à 15 nœuds en soirée sur le nord-est. L'île des Pins est également en sortie de vallée de la côte est. Les températures de la nuit seront comprises entre 17 et 24 degrés. Demain matin, sur le nord-est et le sud des Loyautés, le ciel sera nuageux à très nuageux, avec quelques averses isolées sur Lifou et Marais. Ailleurs, le soleil dominera, malgré quelques nuages en fin de matinée. Le vent s'orientera au secteur sud-est de 5 à 10 nœuds, localement en variable faible sur le sud-ouest, le nord-est et le nord des Loyautés.